condamneux, chose impossible pour lui même d'une seule main. Il avait aussi dépassé les projecteurs, sans presque s'en apercevoir parce qu'ils étaient éteints. Il savait qu'ils étaient placés là, orientés vers le haut pour inonder de lumière le marcheur céleste, et avec lui, les barreaux de l'échelle de corde. « Ne regarde pas en bas, jamais vers le bas !» C'était la voix de Dolores. Elle devait être rentrée de son jogging et vomissait tout ce qu'elle savait. Il ne regarda pas vers le bas, mais s'arrêta un instant en l'entendant. Les muscles des bras le brûlaient, cependant, il se sentait fort, et il ne lui restait qu'une courte distance à parcourir. « Un autre avenir, un autre avenir, un autre avenir !» criait Loupé, tandis que Dolores vomissait en bas. Elles étaient son seul public. « Tu n'aurais pas dû t'arrêter !» parvint à articuler Dolores entre deux hoquets. « Tu dois passer de la corde à nœud à l'échelle sans y penser. Ce qu'il faut, c'est lâcher la corde avant d'attraper l'échelle. » Cela signifiait qu'il devrait lâcher prise deux fois. Personne ne le lui avait dit. Ni Soledad ni Dolores ne l'auraient cru prêt à grimper jusque là-haut. Il se rendit compte qu'il était incapable de lâcher la corde, même une seule fois, même d'une seule main. Immobile, pétrifié, il la sentait osciller toute seule. « Redescends !» lui cria Dolores. « Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de faire ça. Je suis sûr que tu en auras pour faire des tas d'autres choses. » « Tu as un autre avenir !» répéta Loupé d'une voix adoucie. Juan Diego redescendit sans regarder une seule fois vers le bas. Quand ses pieds touchèrent le sol, il constata avec étonnement qu'il était seul avec Loupé sous le vaste chapiteau. Où est passé Dolores ? Loupé avait proféré des horreurs à son encontre. « Que le dompteur la mette en cloque !» Or, il venait bel et bien de le faire. « C'est ce qui peut lui arriver de mieux !» avait-elle ajouté. Mais à présent, elle regrettait ses mauvaises paroles. Dolores avait eu ses premières règles quelque temps auparavant. Les lions l'ignoraient peut-être. Pas Ignacio. Si Dolores courait tous les jours à s'en rendre malade, c'était pour avorter. Mais ses courses effrénées n'y avaient pas suffi. Elle était bel et bien enceinte, et c'est pour cette raison qu'elle vomissait tous les matins. Quand Loupé la prit à Juan Diego, il lui demanda si Dolores lui en avait parlé. Mais il n'en était rien. Elle l'avait lu dans ses pensées. Dolores s'était cependant confiée à elle avant de partir, une fois sûre que Juan Diego redescendait la corde à nœud. « Je vais te dire ce que je n'ai pas le cran de faire. Comme tu es une demoiselle, je sais tout, tu es sûrement déjà au courant. Je n'ai pas le courage d'affronter le reste de ma vie. » Puis elle s'était glissée hors du chapiteau, pour ne plus jamais y revenir. Le docteur Vargas fut la dernière personne à la voir à Huachaca, aux urgences de la Croix-Rouge. Elle était morte d'une infection péritonéale, due à un avortement saboté à Guadalajara. Ce salopard de dompteur connaît un charlatan et il lui envoie ses acrobates quand il les a engrossés, dit Vargas. Ce jour-là, l'infection était trop avancée pour qu'il puisse la sauver. « Meurs en couche, chatte de singe !» avait asséné Loupé à la merveille. D'une certaine façon, c'est bien ce qui lui était arrivé. Elle avait 14 ans, l'âge de Juan Diego. La Maravilla avait perdu sa merveille. L'enchaînement des événements, la trame de nos vies, ce qui nous mène sur le chemin, vers les buts que nous nous sommes fixés, ce que nous ne voyons pas arriver, et ce que nous faisons, autant de mystères, autant d'angles morts, autant d'évidences aussi. Vargas était un bon praticien, un homme intelligent. Au premier coup d'œil, il avait tout compris. L'avortement à Guadalajara, il en avait vu d'autres du même acabit, le charlatan, un pote d'Ignacio qui avait bâclé le travail, l'adolescente tout juste pubère. Toutefois, même Vargas n'avait pas la science infuse. Sa vie durant, il allait se demander s'il y avait des cas de rage chez les lions. Pendant des années, il enverrait à Juan Diego les comptes rendus des recherches en cours. Et pourtant, quand Loupé lui avait posé la question, quand elle cherchait des réponses à ses propres interrogations, il avait été incapable de lui fournir la moindre information. Il avait l'esprit scientifique, il spéculait, c'était dans sa nature. Au fond, bien après la mort de Loupé, ce n'était pas tant la question de la rage chez les lions qui le passionnait, mais pourquoi elle taraudait à ce point la fillette. Seigneur Eduardo et Flore étaient morts du sida, et Loupé avait quitté ce monde depuis longtemps quand Vargas fit état d'études déconcertantes publiées en Tanzanie. Des recherches menées sur des lions du Serengeti soulevaient des points significatifs qu'il signalait à Juan Diego. Chez les lions, la rage aurait été transmise par des chiens domestiques. Elle se serait propagée par l'intermédiaire des hyènes jusqu'aux grands fauves. Le virus pouvait déclencher la maladie ou rester silencieux. Il y avait eu des épidémies de rage chez les lions en 1976 et 1981, mais aucune n'avait provoqué de symptômes particuliers. On les avait qualifiés d'épidémies silencieuses. Selon l'étude, la présence d'un parasite comparable à celui de la malaria aurait été déterminante pour provoquer ou non ces symptômes. Ainsi, un lion porteur sain et asymptomatique pouvait être contagieux et transmettre la maladie, et un autre, infecté par le même virus, pouvait développer la maladie et en mourir. Tout dépend de la réaction du système immunitaire aux parasites, avait écrit Vargas à Juan Diego. Il y avait eu des épidémies de rage mortelles dans le Serengeti. Elles s'étaient produites durant les périodes de sécheresse qui avaient décimé les troupeaux de buffles du Cap. Les carcasses étaient infestées de tiques, elles-mêmes porteuses du parasite. Loupé n'aurait eu que faire de ses études, disait Vargas. Ce qu'elle voulait savoir, c'était si Hombre pouvait attraper la rage et en présenter les symptômes. Mais pourquoi? Il se le demandait encore, à quoi bon désormais, songeait Juan Diego. Il était trop tard pour se poser la question. Il était relativement rare qu'un lion soit contaminé par le virus de la rage, même dans le Serengeti. Mais quelle idée folle avait traversé la tête de Loupé, avant qu'elle ne change d'avis et passe à une autre tout aussi folle. Que Hombre ait attrapé la rage ou non, quelle importance? Qu'un chien enragé morde Hombre. À moins que celui-ci n'ait tué et dévoré un chien enragé, soit. Que Hombre attrape le virus, puis qu'il morde Ignacio, admettons. Mais tout cela mène à quoi? Cette histoire a pour origine les pensées des lionnes, avait expliqué Juan Diego à Vargas une bonne centaine de fois. Loupé lisait dans la pensée des lions, elle savait que Hombre ne s'en prendrait jamais à Ignacio, et que les filles de la Maravilla ne seraient jamais en sécurité tant que le dompteur serait en vie. Elle le savait parce qu'elle lisait dans les pensées d'Ignacio. Inutile de dire que cette logique fantaisiste n'était pas à la hauteur des études scientifiques que le docteur Vargas trouvait convaincantes. Tu prétends que Loupé savait, d'une manière ou d'une autre, que les lionnes tueraient Ignacio, mais seulement si celui-ci tuait Hombre, c'est bien ça? Vargas demeurait incrédule. C'est ce que je l'ai entendu dire, répétait Juan Diego. D'après Loupé, les lionnes allaient tuer Ignacio. Elles savaient qu'elles détestaient le dompteur. Elles disaient qu'elles étaient encore plus connes que les petites bêcheuses, parce qu'elles étaient jalouses d'Ignacio, car elles croyaient que Hombre l'aimait plus qu'elles. Ignacio n'avait rien à craindre du lion, c'était des lionnes qu'il aurait dû se méfier. Loupé savait tout ça, comment pouvait-elle savoir? S'enquit le docteur Vargas à plusieurs reprises. Ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre ses recherches sur la rage chez les grands félins, un champ d'investigation qui n'attirait pas les foules. Le jour où Juan Diego avait déclaré forfait dans la dernière étape de sa marche céleste, devait rester dans les mémoires comme le jour du nez. Il n'apparaîtrait jamais sous le vocable « Dia de la Nariz ». Dans un calendrier liturgique, on n'en ferait pas une fête nationale ni une fête patronale. On finirait par l'oublier, même dans les traditions régionales. Mais pendant un temps, on y verrait un grand événement mineur. Loupé et Juan Diego étaient seuls dans l'allée des tentes. Il était encore tôt, le premier office n'avait pas encore commencé à l'église, et au Circo de la Maravilla, tout le monde dormait. Tout le monde, enfin, presque. Dans la tente des chiens, on s'agitait beaucoup. Manifestement, est-ce